Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de décembre. Une heure avec vous tous et toutes pour parler de nos actions et de nos mobilisations pour la défense des droits humains. Et pour animer l'émission ce soir, elle n'était pas là la dernière fois parce qu'elle était un petit peu souffrante, mais on est très content de la revoir ce soir. Claire-Lise.
Bonsoir.
Et Edith.
Bonsoir.
Voilà, donc on va vous parler ce soir de différentes choses, dont de cette fameuse Déclaration universelle des droits humains. Alors, pour petit rappel, si vous avez écouté le générique, il y a une phrase qui est dite dans le générique, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, etc. etc. » Et bien, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et l'anniversaire de cette déclaration, c'était quand ?
C'était le 10 décembre.
Voilà.
Et on vient de fêter les 75 ans, puisque cette déclaration a été signée et promulguée le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais de Chaillot. Voilà. Et donc, elle était ratifiée par l'ONU et les pays membres de l'ONU. Donc, on fête cet anniversaire, mais Dieu sait qu'effectivement, cette déclaration, même si c'est un très beau texte et c'est un texte très enthousiasmant, mais Dieu sait qu'elle n'est pas très bien respectée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je crois que là-dessus, il y avait Claire-Lise qui avait beaucoup de choses à vous dire.
Tu vas nous faire le point.
Oui, j'ai rigolé parce que je me suis dit, il est en train de faire l'article.
Mais non.
Effectivement, 10 décembre, c'était l'occasion de souhaiter un très bon anniversaire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, cette vieille dame protectrice des faibles et intraitable avec les plus forts, mais à l'heure du bilan, force est de constater que son impact peut légitimement être remis en question. 75 ans après, où en est-on ? Ce texte fondateur et essentiel est-il devenu un menu à la carte pour certains États ? On a déjà un petit bout de réponse, mais bon. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 75 ans. Il est aujourd'hui crucial de célébrer ce texte essentiel et fondateur. Un texte qui a inspiré la création d'Amnesty International qui, depuis plus de 60 ans, se bat sans relâche pour défendre et promouvoir ses droits et dénoncer ce qui les met à mal. Célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi se rappeler que ses grands principes sont aujourd'hui plus fragiles que jamais. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le socle du droit international, des droits humains, et donc de tous nos droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme se voulait, dans l'esprit de ses rédacteurs et rédactrices, inaliénable et universel. Élaborée après la découverte des camps d'extermination nazis et alors que le monde se relevait de destructions sans précédent dans son histoire, elle revenait à dire « plus jamais ça ». 75 ans après sa signature, après la guerre froide et ses multiples conflits par procuration, les génocides au Cambodge et au Rwanda, les nettoyages ethniques en ex-Yougoslavie, des régimes militaires ayant prospéré sur tous les continents, les crimes de masse au Xinjiang et au Tibet, les invasions de l'Irak ou de l'Ukraine, les guerres sans fin du Moyen-Orient, quel sens donner à la déclaration de 1948 ? Le système international des droits humains s'est pourtant largement étoffé avec l'adoption et la ratification de textes internationaux toujours plus complets sur les questions des droits civils et politiques, mais aussi en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Tous se battent sur la DUDH, désormais ancrée dans de nombreuses constitutions et qui a inspiré des communautés d'États, l'Union africaine, l'Organisation des États américains, etc., sur tous les continents, pour élaborer des conventions communes dans ce domaine. Mais en dépit de ces avancées sur le papier, les plus optimistes qui prédisaient, après la chute du mur de Berlin, l'avènement de la fin de l'histoire et la mort du totalitarisme, ont dû très vite déchanter. Ce sont surtout les systèmes répressifs comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie qui se sont renforcés depuis, interdisant toute forme de contestation en interne et menaçant les fragiles équilibres régionaux par réflexes nationalistes ou expansionnistes. Leurs dirigeants rejettent d'ailleurs les valeurs occidentales, selon eux, promues par la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui ne seraient pas compatibles avec leur propre histoire, religion ou idéologie. Un relativisme culturel qui a fait long feu au vu de l'extraordinaire mobilisation des sociétés civiles du monde entier autour des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ces dernières décennies. Même si cette hypocrisie culturelle connaît aujourd'hui un regain de vitalité, via les discours de haine véhiculés et via les réseaux sociaux notamment. D'autres dénoncent l'hypocrisie des États traditionnellement promoteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui refusent d'admettre qu'ils peuvent eux-mêmes avoir un comportement pour le moins ambigu avec ces mêmes principes. Qu'il s'agisse des anciennes puissances coloniales européennes lors des guerres d'indépendance, mais aussi des États membres de l'Union européenne aujourd'hui qui n'hésitent pas à durcir leur législation sur les migrations, au mépris des droits fondamentaux, ou bien encore, bien sûr, de la surpuissance américaine qui n'a jamais caché que ses principes universels n'avaient de valeur que s'ils servaient ses propres intérêts. Ce double standard est probablement ce qui risque de porter le plus atteinte à ce texte fondamental et au système international dont il est censé être la colonne vertébrale. L'afflux d'argent de la part de nombreux États pour les enquêtes de la Cour pénale internationale après la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine cache mal le fait que beaucoup de ces mêmes États se sont toujours opposés à de telles investigations en Israël et dans les territoires occupés palestiniens, ou encore par les crimes commis par les États-Unis en Irak ou en Afghanistan. Partout, ou presque, les États les plus forts utilisent la DUDH et le système international comme un mouchoir jetable ou un menu à la carte, en n'y sélectionnant que ce qui les intéresse ou peut nuire à un pays adverse. L'affaiblissement du multilatéralisme est probablement la principale cause et la principale conséquence de ce deux poids, deux mesures. Il a été à l'origine de nouveaux fronts meurtriers et un frein au règlement de conflits plus anciens. Le nettoyage ethnique des Rohingyas, la guerre d'invasion russe en Ukraine, l'attaque du Hamas du 7 octobre et la réponse disproportionnée israélienne dans la bande de Gaza, ou encore les conflits oubliés mais extrêmement meurtriers au Sahel, dans l'est de la République démocratique du Congo ou dans la Corne de l'Afrique, ne sont en effet que les symptômes apparents de cet affaiblissement du système international et de la conception utilitariste des droits humains par certains États. Les pays du Sud global font remarquer à juste titre qu'il convient désormais de modifier en profondeur le système de gouvernance mondiale et réclament un nouveau système pour prévenir les crises. Ces pays n'ont pas tort sur le fond. Le système international chargé de faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui atteint aujourd'hui ses limites a été mis en œuvre à une époque où nombre de peuples étaient sous le joug de l'impérialisme et de la colonisation. La composition du Conseil de sécurité et de nombreuses institutions internationales s'en ressentent encore, en dépit de quelques avancées. Certains des États, censés garantir la paix et la sécurité dans le monde, sont d'ailleurs aujourd'hui, comme la Russie ou les États-Unis, directement ou indirectement responsables des conflits les plus dévastateurs, empêchant par le seul jeu du droit du veto toute possibilité de résolution des crises. Il y a pourtant des raisons d'espérer dans les domaines des droits des femmes, des droits des personnes LGBT, des personnes autochtones, etc., des États ont pu progresser et des populations entières ont vu leur situation s'améliorer concrètement. Le recours à la peine de mort a également fortement reculé. Depuis 75 ans, la principale réussite de la Déclaration universelle des droits de l'homme a certainement été son adoption par les sociétés civiles du monde entier. Ce sont elles qui font progresser les idées de justice pénale internationale ou de droit environnemental. Elles qui défendent les populations les plus faibles au quotidien. Ce serait d'ailleurs logique, puisque ce sont elles qui défendent la déclaration dans son intégralité, qu'elles prennent toute leur place dans cette nouvelle gouvernance mondiale qui devra nécessairement voir le jour. Car l'héritage de la DUDH nous incite à passer à l'offensive. Il nous commande de résister aux attaques mondiales, transnationales et locales contre les droits, mais il nous indique aussi que cela ne suffira pas. Il nous enjoint de déstabiliser l'édification d'ordre mondiaux qui reproduisent des injustices et des privilèges historiques, violent les droits et musellent les défenseurs et défenseuses, et de transformer la gouvernance mondiale en la repensant, en innovant et en prenant les rênes. Nous pensons, nous devons construire des systèmes, institutions et organes dirigeants audacieux et visionnaires, capables de protéger notre planète pour les générations futures et contre tout ce qui nous assiège. C'est en tout cas le vœu que nous adressons à la déclaration pour ses 75 ans. Un anniversaire qui nous rappelle l'importance des défis à relever, mais aussi que le combat pour les droits humains est l'affaire de tous et de toutes, le nôtre et le vôtre. Voilà.
C'est un beau texte.
Oui, c'est un, voilà. C'est un beau texte. Ouais. C'est un, oui, effectivement. Donc, merci Claire-Lise, effectivement, de nous avoir...
Oui, je me suis un petit peu emportée, partie dans mon élan...
Dans un discours très...
Dans mon élan passionné.
Et puis, c'est un texte, effectivement, qui donne envie aussi de se mobiliser. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Donc, n'hésitez pas.
Une pierre d'achoppement partagée par tout le monde. C'était ça, le principe. Mais effectivement, il faut la faire évoluer.
Oui.
Elle reste
Il faut la faire respecter,
vivante, déjà.
Et puis la faire évoluer.
Voilà. Donc, partagée avec toutes les nations. Ça, c'est vrai. Ça, c'est...
Donc, pour faire le lien par rapport à ce qui vient d'être dit, vous savez aussi que tous les ans, au mois de décembre, justement, autour de cet anniversaire, Amnesty International fait une grande campagne
qui
s'appelle 10 jours pour signer. Réécoutez, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, notre dernière émission de la fin novembre.
On était tous les deux avec Didier, voilà. on a fait une émission pratiquement sur les 10 jours pour signer.
On vous a présenté les 10 cas qui sont défendus cette année. Et parmi ces 10 cas, il y a une communauté autochtone canadienne.
Et on va en parler.
Les Wet'suwet'en. On m'excusera si j'ai écorché un
peu. Dis-le.
Wet'suwet'en. Effectivement.
Et pourquoi allons-nous en reparler?
Et qui défendent leur bien à la terre, puisque effectivement, leurs terres sont menacées par la construction d'un viaduc pour transporter des énergies fossiles. Donc voilà.
Alors pourquoi vas-tu en parler ?
On va en parler parce que donc vendredi dernier, il y avait une émission spéciale sur France Culture consacrée à cette campagne d'Amnesty, 10 jours pour signer. Et il y avait un reportage qui a été fait au Canada, justement, avec cette communauté. Donc on va vous le passer tout de suite.
Et on va les entendre parler.
Voilà. Et
ça va être encore plus vivant que ce qu'on a pu vous dire.
C'est ça. Et ça complète tout à fait ce que vous avez déjà dit à la dernière émission. Voilà. Donc on se retrouve juste après.
Au civil, on l'appelle John Ridsdale, mais lui préfère son nom Wet'suwet'en, Namox.
Mon nom est vieux de plusieurs milliers d'années. Namox, ça veut dire travail dur et est là pour son peuple.
Namox est l'un des 5 chefs héréditaires des Wet'suwet'en, l'une des premières nations du Canada. Un peu plus de 3000 personnes réparties sur un territoire de 22 000 km², l'équivalent d'un pays comme Israël, le tout au cœur de la Colombie-Britannique. Pour comprendre ce que cet homme au visage buriné par le froid et qui ne se sépare jamais de son costume traditionnel fait aux Nations Unies, il faut faire un petit retour en arrière. Nous sommes en février 2020, les médias du monde entier s'agitent à propos de la découverte d'un nouveau coronavirus en Chine, mais au Canada, un autre sujet monopolise les journaux.
Un appel à la solidarité jusqu'aux portes du Parlement. Un écho aux revendications des chefs héréditaires Wet'suwet'en opposés au gazoduc Coastal GasLink. Le gouvernement Trudeau semble incapable de faire baisser la pression. Pendant ce temps, les impacts économiques s'accentuent, rappelle le premier ministre du Québec.
Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui souffrent, des agriculteurs entre autres, donc il est temps que ça finisse.
Les manifestations et les blocages des trains dureront un mois avant de s'arrêter à cause du Covid. Mais pour les Wet'suwet'en, ce n'est que le début d'un long combat contre le gazoduc Coastal GasLink, un long serpent de 670 km chargé de transporter le gaz naturel du champ de Dawson Creek vers le terminal gazier de Kitimat sur la côte pacifique, à travers les terres ancestrales des Wet'suwet'en. Ce gazoduc, Namox, n'en veut certainement pas.
Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Que le gazoduc passe sur vos terres ou qu'on les fait sans vous demander votre avis?
Les deux, en fait. On ne nous a pas consultés, ou plutôt, quand on a parlé avec le gouvernement, nous leur avons proposé un trajet alternatif pour le gazoduc. Et ils l'ont totalement ignoré. On a subi trois raids massifs de la police en 2019, 2020 et 2021. Des centaines de policiers sont intervenus. On aurait dit une armée. Il y avait des hélicoptères, des chiens, des armes automatiques. Ils ont forcé nos portes pour nous arrêter, nous et nos soutiens. Et après, ils disent qu'on est des protestataires. On ne proteste pas. On protège ce qui est à nous. Être surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous dire où on peut aller dans un pays qui est censé être démocratique, comme le Canada. Pourquoi on doit vivre comme ça ?
L'exploitant dit que le gazoduc a été fait en prenant en compte tous les aspects environnementaux, le droit des peuples autochtones. Vous, vous dites que c'est un mensonge.
C'est un mensonge total. S'ils respectaient les droits des autochtones, pourquoi ont-ils ignoré notre tracé alternatif ? Ils ont fait passer le gazoduc en dessous de notre plus grande rivière à saumon, la Wet'suwet'en. Sur nos terres, nous buvons directement l'eau des rivières, des lacs, et maintenant, ils mettent ce pipeline sous nos pieds. Est-ce qu'on sait seulement l'impact que cela aura sur l'eau et sur le saumon ? Non, on ne le sait pas.
Pourtant, il y a des membres de la communauté Wet'suwet'en qui ont signé un accord avec l'exploitant qui leur a promis en échange des emplois, des investissements. Vous, vous regrettez cela ?
Une vingtaine de groupes ont signé, sauf que pas un seul n'a de terre sur la route du gazoduc. Et ils ne sont pas tous Wet'suwet'en. C'est pour ça qu'ils ont signé.
Le gazoduc aujourd'hui est construit, il est terminé. Qu'est-ce que vous espérez obtenir en venant aux Nations Unies ici ?
Ils disent qu'il est construit, mais il faut que vous compreniez. Nous avons des montagnes aussi hautes que les Alpes. Le gazoduc ne transporte rien pour le moment. Ils disent qu'il est construit parce qu'ils veulent que leurs investisseurs le croient. Est-ce que le combat est fini ? Bien sûr que non. Nous sommes des Wet'suwet'en. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour notre peuple et pour lutter contre le changement climatique. On ne veut pas être comme d'autres peuples autochtones du Canada qui doivent se faire livrer de l'eau en bouteille parce qu'elle a été polluée. Voilà pourquoi on se bat. Le monde doit savoir. Le Canada doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas aux industriels de dicter la conduite des gouvernements. Le Canada ne peut pas imposer des projets à des personnes qui n'en veulent pas.
L'histoire canadienne est jalonnée de conflits de ce type. L'une des pires crises a eu lieu en 1990 au Québec. Les Kanienkehaka, plus connus sous le nom de Mohawks, s'opposent à l'extension d'un terrain de golf et à l'implantation d'un projet immobilier sur leur terre. La crise d'Oka fera deux morts, un policier et un membre de la communauté autochtone. Plus récemment, des membres de la communauté Innu ont porté plainte contre l'énergéticien Hydro-Québec, accusé d'avoir défiguré leur terre à cause de sa centrale hydroélectrique. D'autres sont allés en justice pour s'opposer à l'exploitation par l'industrie de forêts anciennes et peuplées de caribous.
Jérôme Bacon-Saint-Onge, vice-chef au Conseil des Inuits de Pessamit. En fait, avec les Premières Nations, c'est tout le même combat. C'est tout le temps les gouvernements qui se disent responsables et fiduciaires de nos nations. Au Canada, on a la loi sur les Indiens. C'est le Canada qui dit nous encadrer dans toutes nos formes d'activité. Alors, pour nous, c'est important de manifester notre autodétermination. Nous sommes en mesure, nous-mêmes, de nous gérer, de nous gouverner. On n'est pas des mineurs, on est tous maintenant instruits. C'est à nous de prendre notre voix, de porter nos messages haut et fort dans la défense de nos droits. C'est tout le même combat, que ce soit au niveau des Wet'suwet'en, que ce soit au niveau des Premières Nations, de l'ensemble des provinces du Québec ou du Canada.
Si les conflits se multiplient, c'est aussi à cause du système mis en place par le Canada. Il date de 1876 et l'adoption de la loi sur les Indiens, c'est son nom. D'un côté, les conseils de bande, sorte de conseils municipaux élus par la communauté. Ils gèrent les écoles, la sécurité, la santé notamment. Et puis de l'autre, les chefs héréditaires, garants du territoire ancestral. Deux autorités, parfois concurrentes, explique le professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal, Martin Papillon.
Là, on a un exemple intéressant dans le cas des Wet'suwet'en où, en fait, le conseil de bande, donc les chefs qui ont été élus à travers les mécanismes coloniaux, si on veut, liés à la loi sur les Indiens, soutiennent la construction du gazoduc et ont négocié des ententes pour un partage des bénéfices avec la compagnie en question, alors que les chefs héréditaires, qui continuent à exercer une certaine autorité, disons, traditionnelle, sur le territoire, eux s'y opposent. On a une coexistence à la fois juridique et politique de deux systèmes d'autorité et c'est ce qui crée en fait beaucoup ces tensions.
Est-ce la portée environnementale du conflit, l'impression de voir un combat à la David contre Goliath? Toujours est-il que les Wet'suwet'en ont réussi à donner une dimension nationale à leur lutte, et même internationale. Très tôt, les chefs héréditaires sont venus plaider leur cause aux Nations Unies, et s'ils sont revenus cet automne à Genève, c'est parce que le Canada passe sur le grill du Conseil des droits de l'homme pour son examen périodique universel, un grand oral auquel s'est plié le ministre de la Justice, Arif Virani.
Aucun pays n'a un bilan parfait en matière de droits de la personne, et le Canada ne fait pas exception. Ce dialogue nous permet d'améliorer la mise en œuvre de nos obligations internationales. Le Canada demeure fermement résolu à défendre les droits de la personne et les libertés fondamentales conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Assise dans la grande salle du Conseil, la directrice de la section francophone d'Amnesty Canada, France Isabelle Langlois, écoute le ministre sans être totalement convaincue.
C'est intéressant. En fait, plusieurs États ont quand même souligné leurs préoccupations par rapport aux droits des peuples autochtones, qui est quand même le grand dossier de droits humains au Canada. Il y en a beaucoup d'autres, mais quand même, c'est le grand dossier. Le Canada aura attendu que ses pairs se préoccupent d'un avancement plus rapide sur la mise en œuvre des droits des peuples autochtones. C'est intéressant pour nous. Maintenant, à voir comment le Canada va répondre à ça. Le Canada est très bon pour s'excuser. Au niveau du discours, ça va. Après, c'est la mise en œuvre, en fait, de tout ça. Et c'est souvent là où le bât blesse.
Le Canada n'est clairement pas un État paria en matière de droits de l'homme. Ottawa n'a pas vraiment été mis en difficulté devant le Conseil, même si la Grande-Bretagne et les États-Unis l'ont interrogé sur le respect des droits des peuples autochtones. Des peuples autochtones qui se déplacent malgré tout jusqu'en Suisse pour interpeller les autorités canadiennes, n'est-ce pas un peu paradoxal? Question posée au ministre canadien de la Justice.
Lorsque je suis arrivé ici au Genève, je les ai rencontrés directement. Je communiquais avec le chef héréditaire de Wet'suwet'en. Je serai toujours à l'écoute et on a fait notre propre effort, mais il y a beaucoup de choses plus qu'il faut faire qu'on va faire.
Une réponse qui ne satisfait absolument pas le chef Wet'suwet'en Namox.
Quand il dit qu'il vous a rencontré, c'est juste qu'il est venu vous serrer la main. He just came and shake your hand, that's it.
Well, he recognized who I was.
Il m'a reconnu. Il est venu vers moi et m'a dit « Bonjour, chef Namox, comment allez-vous ?» Et c'est tout. Mais comme ça, il peut dire « Oui, oui, on a eu une discussion. » Les industriels font la même chose. Ce sont toujours les mêmes mots. « Nous essayons, nous allons faire, nous travaillons à… » C'est tellement flou. Notre espoir, c'est que la communauté internationale mette davantage de pression sur le Canada, parce que c'est le seul moyen pour que les autorités fassent quelque chose.
Désormais, le conflit Wet'suwet'en Coastal Gas Link se déroule principalement devant les tribunaux. Plusieurs membres de la communauté et leur soutien sont jugés en ce moment pour avoir pris part à des blocages de routes. Deux personnes ont déjà été condamnées à des heures de travail d'intérêt général. Quant à l'exploitant du gazoduc, il a écopé d'une amende pour non-conformité avec le droit de l'environnement. C'est tout sauf une première. Depuis le début des travaux en 2019, Coastal Gas Link s'est vu infliger plus de 800 000 dollars d'amende.
Voilà, c'était donc le reportage qui illustrait la situation des Wet'suwet'en au Canada. Et donc, on vous rappelle que la pétition est toujours en ligne sur le site d'Amnesty, avec toutes les autres pétitions des 10 jours pour signer. Donc, prenez quelques secondes pour aller signer toutes ces pétitions, effectivement, dont celle-là. Et on va passer tout de suite à la première pause musicale, et on se retrouve juste après.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanouchian vient pas d'Auvergne, tirailleur t'emmerde, il a fait condé d'être ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter, mais c'est Clarlys qui va vous le dire.
Alors, ce morceau s'appelle Irruption. C'est un morceau qui est dans l'album Rythme et Botanique et qui est de Gaël Faye. Voilà. Et je voulais le dédier à monsieur Gérard Darmanin qui devait être bien chagrin ce matin. Et je pensais, en rigolant, j'entendais cette chanson. Je me suis dit, tiens, voilà, une belle chanson par rapport à. On va bientôt fêter aussi. Le lundi prochain la journée internationale des migrants et de toutes ces personnes qui viennent, qui arrivent, qui sont là. C'est une irruption.
Tout à fait. Bon, on va ne quitter pas l'antenne parce qu'on va vous reparler, enfin c'est Clarlys qui va vous en reparler tout à l'heure, de toutes ces thématiques-là, donc, et aussi de ce projet de loi. Donc voilà, on continue, on vous a parlé d'environnement avec l'interview des
Canadiens.
Des Canadiens, enfin des Wet'suwet'en, parce qu'en fait,
oui, voilà. Ils sont un peuple.
Et donc, je vais vous faire sur une petite, c'est aussi la COP28 en ce moment qui se termine, mais je vais faire une petite chronique aussi toujours dans l'optique de la défense des droits humains et de la justice climatique, ce qui est fondamental, avec la parution d'un rapport qui s'appelle « Sans leur combat, pas d'avenir », qui est paru juste le premier d'Amnesty, qui est un rapport qui est paru juste le premier jour de la COP, donc il y a une bonne semaine maintenant, et qui en fait fait le point sur la lutte de plein de gens qui luttent pour la justice climatique en Amérique, et principalement en Amérique du Sud. Donc je ne vais pas tout vous lire le communiqué qui est joint à ce rapport. Pour l'instant, le rapport n'existe qu'en anglais. Mais je ne vais pas vous lire tout le communiqué, mais simplement des extraits. Donc les Amériques sont la région du monde où l'on recense le plus grand nombre de meurtres de défenseurs de la terre, du territoire et de l'environnement. Nous nous sommes entretenus avec des défenseurs de plusieurs pays des Amériques qui, malgré les défis terrifiants auxquels ils sont confrontés, continuent de se battre pour un environnement sain pour toutes et tous. Les États doivent reconnaître publiquement la valeur de leur travail et prendre des mesures en urgence afin de garantir leur sécurité et de mettre fin à l'impunité dont bénéficient leurs agresseurs. Un certain nombre de personnes, groupes et organisations se sont mobilisés face à de puissants intérêts économiques afin d'inciter les États à cesser de dépendre de sources d'énergie basées sur la combustion de carburants fossiles. En Équateur, un groupe de filles et de jeunes a entrepris des poursuites judiciaires contre la combustion du gaz naturel résiduel lors de l'extraction de pétrole, qui porte de graves préjudices à la santé des populations locales, en plus de contribuer à l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Au Canada, justement, on y revient, le peuple Wet'suwet'en les oppose à la construction d'un gazoduc s'oppose à la construction d'un gazoduc sur son territoire ancestral sans son consentement préalable, libre et éclairé. C'est ce qu'on vient d'écouter avant la pause musicale, bien sûr. Amnesty International exhorte toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à reconnaître le travail légitime des personnes, groupes et organisations qui défendent l'environnement ou contribuent à la justice climatique et à leur garantir un environnement sûr et propice à l'accomplissement de leur travail au niveau local et international, ainsi qu'à leur permettre de s'engager véritablement sur les questions liées à l'environnement et au climat. Bon, là aussi, alors c'est vraiment un tout petit extrait, effectivement, de ce communiqué d'Amnesty, et encore plus de ce rapport qui doit faire une soixantaine de pages, qui vient de paraître, dont je vous rappelle le titre. Si vous êtes angliciste, vous pouvez déjà le lire. Il sera traduit après en français. Et ça s'appelle « Sans leur combat, pas d'avenir ». Je pense que le titre est suffisamment éloquent. Et pour terminer cette petite chronique sur la justice climatique et les droits humains, toujours en rapport avec la COP, alors, je voulais vous parler, effectivement, de quelqu'un qu'on connaît bien, nous, à Amnesty, à Évreux. Il s'appelle Thierry, il est militant du groupe depuis très longtemps. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, dans la dernière chronique, on vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. Vous avez le bulletin d'abonnement en ligne sur amnesty.fr. N'hésitez pas à vous abonner. On le redit à chaque fois, mais on le redira jamais assez. Donc, c'est dans la dernière chronique, il y a un petit article, c'est sur concernant la vie du mouvement, et qui s'appelle « Amnesty passe au vert ». Et c'est en fait la création au sein d'Amnesty International France de la commission justice climatique, effectivement, qui était en discussion depuis pas mal de temps, mais qui maintenant, effectivement, a été créée, et dont notre ami Thierry est largement responsable. Voilà. Et responsable de la création de cette commission, hein, bien sûr. Alors, je ne vais pas non plus pas vous lire tout l'article qui parle de la création de cette commission, mais simplement deux ou trois extraits. L'intérêt porté par le mouvement aux effets du dérèglement climatique sur les droits humains croît depuis plusieurs années et Amnesty bien sûr, a officiellement adopté une stratégie climat en 2019. L'été dernier, en France, une commission thématique dédiée à la justice climatique a été mise sur pied. Thierry, donc notre ami du groupe, membre du mouvement en Normandie depuis une trentaine d'années, a intégré cette nouvelle structure après avoir soutenu une résolution à propos des déplacés climatiques lors de l'Assemblée générale d'Amnesty France en juin 2023. Alors Thierry nous dit « J'avais déjà proposé une résolution de ce type il y a 15 ans, mais elle n'était pas passée. C'est bien, ça montre que les mentalités évoluent. » Lors de la première réunion de la commission en septembre, Thierry a été surpris. Parmi les 8 membres, plusieurs sont jeunes, voire très jeunes, et n'étaient pas forcément membres d'Amnesty International avant l'été. Mais de fait, c'est super, reprend Thierry. Ça permet de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire. Et parmi les membres qui participent à cette commission, un autre, donc, effectivement, s'exprime de la façon suivante. Il dit que cette convivialité qui règne dans la commission, c'est également ce que Mordan, attaché de presse de profession, est venu chercher. Voilà ce qu'elle dit. « J'en avais assez de rester seul dans mon coin à subir l'actualité déprimante du climat et des droits humains. » Après avoir adhéré à un groupe local à Paris, Morgane, qui jusque-là ne s'était jamais définie comme militante, a trouvé dans la commission justice climatique une communauté d'esprit. « C'est très stimulant, intellectuellement, dit-elle. On discute de géopolitique et de droit international humanitaire. On gagne en expertise. Et tout ça dans la bonne humeur, malgré les sujets graves que nous traitons. Les défis, d'ailleurs, ne vont pas manquer. » Dès la création de la commission, Morgane s'est positionnée sur la proposition du plaidoyer d'Amnesty International dans le cadre de la COP28. C'est beaucoup d'informations à emmagasiner. Heureusement, j'ai passé mon été à lire des livres sur la crise climatique. Voilà. Donc, militer avec Amnesty au sein de cette commission. Encore une fois, les commissions, c'est animé uniquement par des bénévoles. Il n'y a pas de salariés membres de ces commissions. Et c'est animé par des militants. Et comme quoi, travailler dans ces commissions, effectivement, ça permet aussi de se former à beaucoup de choses. Voilà. Donc, un petit coup de chapeau à Thierry. On est très content, effectivement, de ce qu'il fait depuis des années par rapport au climat et très content que cette commission voit le jour.
Et que ça soit une évolution normale d'un mouvement des droits humains. Je pense que ça, c'est important aussi.
Tout à fait. Donc, on vous en reparlera forcément dans nos prochaines émissions. Et maintenant, c'est Edith qui avait tout à fait autre chose
à
vous dire.
J'avais envie, par rapport à l'actualité et à ce qu'on allait vous présenter à la radio, parler aussi des endroits où, un petit peu plus oublié. Alors, vous allez me dire, le premier, ce n'est pas un endroit qu'on oublie depuis longtemps, mais quand même, l'actualité ne le met plus en première. C'est l'Ukraine et une partie de l'Ukraine, celle qui est occupée par la Russie. Et Amnesty a sorti des nouvelles recherches par rapport à la situation des enfants dans les territoires qui font à peu près, on va dire, un cinquième de l'Ukraine, qui sont donc sous l'occupation de la force russe. Et qu'est-ce qui se passe pour les enfants dans ces territoires-là? Eh bien, c'est très compliqué pour eux. L'avenir des enfants est menacé. L'agression russe en Ukraine continuant de compromettre leur scolarité. Alors, je vais vous expliquer. La scolarité à la mode russe, c'est tous les enfants doivent être dans le moule de l'école russe, ce que absolument pas les parents d'enfants en âge scolaire dans ces régions ont envie. Certains parents préférant même cacher leur enfant pour éviter qu'il ne soit conduit dans des institutions de rééducation, emmené pour adoption en Russie, ou inscrits de force dans les écoles qui enseignent le programme russe. Alors, Amnesty a des témoignages de 23 professionnels et de 16 familles qui vivent encore dans les territoires occupés ou qui ont vécu dans ces territoires-là. Et ce qu'ils nous racontent, c'est assez soucieux. Donc, ou alors les enfants suivent leur scolarité en cachette pour éviter les représailles. Il se compare un petit peu à des partisans creusant des trous dans le jardin pour cacher les ordinateurs, les téléphones portables, pour faire des cours en visio, car les soldats russes sont très vigilants dans les villages. Alors, quelques témoignages. Ulyana, qui est une bibliothécaire scolaire, a déclaré qu'elle avait dû organiser en secret des rencontres avec des étudiants pour leur donner des livres. En dépit des patrouilles militaires russes dans les rues de leur village, qui se livraient à de fréquentes perquisitions aléatoires. Xenia, elle, parle du climat de peur et d'intimidation pour les habitants des territoires occupés. Xenia, c'est la mère d'un adolescent de 15 ans, Kirillo, qui est originaire d'un village occupé dans la région de Kherson, a raconté la visite à domicile d'un enseignant au printemps 2022. L'enseignant a demandé à Kirillo s'il retournerait à l'école lors de sa réouverture en septembre. Xenia a répondu que Kirillo n'irait pas. Début septembre, des hommes vêtus d'uniformes militaires russes sont venus le prévenir. « Si tu ne te présentes pas à l'école demain, le bus viendra la semaine prochaine et t'emmènera dans un orphelinat en Russie. » Kirillo est donc allé à l'école. Et il a constaté que l'établissement était orné de symboles de l'État russe, tandis que le personnel armé était stationné devant la porte et à l'intérieur du bâtiment. Alors, un autre enseignant dans une ville occupée de Berdiam, dans la région de Zaporizhzhia, qui a quitté les territoires occupés en juillet 2022, mais qui continue à donner des cours en ligne aux enfants restés dans la communauté, a expliqué qu'ils sont désormais forcés d'apprendre et de chanter l'hymne national russe. Ceux qui refusent sont menacés d'être retirés de leur famille et d'envoyés dans les fameux centres de rééducation ou les orphelinats russes. Et dans cette même école, une affiche qu'ont vue les chercheurs d'Amnesty International a été distribuée à tous les élèves. « Regarde autour de toi, tu verras que l'Ukraine a détruit Kharkov, Mariupol et d'autres villes. Si tu ne veux pas que l'Ukraine te tue, dis-nous tout ce que tu vois et tout ce que tu sais à ce sujet. » Vraiment, répercussion de l'endoctrinement et de la pression sur les enseignants. Alors certains ont quitté l'enseignement, comme deux femmes, Anna et Olena. Elles ont refusé et sont rentrées dans la clandestinité. Olena a dû quitter son appartement, a vécu chez des voisins, tandis qu'Anna est restée secrètement chez elle, tout en renonçant à s'inscrire à l'aide humanitaire, les colis alimentaires que fournissent les autorités russes d'occupation. Et lorsqu'elle s'est entretenue avec Amnesty, elle a admis qu'il était quand même très difficile de survivre 8 mois d'occupation sans aucun revenu ni aucune aide. Selon les témoignages des familles vivant dans les territoires occupés, les écoles ont rouvert en septembre, mais elles manquent de personnel enseignant, notamment qualifié. Alors les enfants sont laissés seuls dans les salles de classe avec comme consigne de lire les manuels au détriment de la qualité de l'apprentissage et de la discipline. Alors, ce que demande Amnesty, c'est que les autorités d'occupation doivent cesser d'intimider la population locale, de contraindre le personnel enseignant à mener des actions éducatives inappropriées et d'autres pratiques abusives. Dans le cadre d'une guerre ou d'une occupation, toutes les parties restent liées par le droit international humanitaire et relatif aux droits humains qui sont notamment tenus de garantir le droit des enfants de bénéficier d'une éducation de qualité, un droit qui doit être pleinement respecté. Donc vous avez plus d'infos si vous allez aller voir le nouveau document qui est sorti par Amnesty, mais c'est comme ça que ça se passe dans les territoires occupés en Ukraine.
Et on rappelle que ce genre de pratiques, effectivement, par rapport aux enfants, ce sont des crimes de guerre. Donc,
voilà, et Poutine a justement il est mis en justice par rapport à la déportation des enfants ukrainiens.
Ça ne l'a pas empêché d'être accueilli comme une star par nos amis de la COP 28.
Il n'est pas allé les voir à la COP. Il est allé
il a été reçu quand même dans le pays en même temps que la COP 28 et en grande pompe.
Et donc, malheureusement, Poutine n'est pas pris.
Tu vas y arriver.
N'est pas véritablement en justice. Il est comment dire sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.
Oui, mais si les pays avaient ratifié,
réussi à le dire.
Bon, j'aurais pu l'arrêter. Ça aurait été.
Je vois que la pendule tourne, mais je crois qu'il y avait Edith, qu'il y avait un autre sujet.
Alors
à
oui,
dire.
Un autre pays dont on parle. Alors là, vraiment encore moins que l'Ukraine, c'est l'Éthiopie. Claire List avait évoqué la situation il y a quelques radios, on va dire ça. C'est notre unité de temps à nous. Eh bien, l'Éthiopie, c'est pas la situation en Éthiopie elle-même, mais c'est le rôle du groupe Facebook, donc Meta maintenant, qui est accusé de porter une responsabilité dans la diffusion des messages haineux visant la communauté tigréenne lors du conflit en Éthiopie. Et si vous nous avez suivis à la dernière émission, il y a un jeune homme qui porte aussi plainte contre Meta par rapport à la situation subie par les Rohingyas au Myanmar. Et c'est la même chose, en mettant que ce sont des réseaux sociaux et que manifestement, ils n'arrivent pas. Allez, c'est parce que là, je suis sympathique.
Ils ne veulent pas.
Se donnent pas des moyens pour arrêter des messages haineux, des messages qui ont emmené des crimes. Et malheureusement, ces messages-là, comme ils font le buzz, c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent. On va dire ça aussi. Donc là, bon, je vais aller rapidement parce que je vois un petit peu l'heure qui tourne. Donc c'est aussi, il y a le témoignage de pour Meharek Amar, un professeur de chimie de 60 ans, père de 4 enfants. Alors, on est en pleine guerre, c'est un opposant, mais il y a des messages de haine qui passent sur Facebook avec son nom, son prénom, son adresse. Eh bien, malheureusement, cet homme va être... son fils dit « Je savais que c'était la condamnation de mon père ». Effectivement, moins d'un mois après ces affirmations mensongères ou publié sur Facebook, son père est assassiné devant chez lui par un groupe d'hommes armés. Amnesty vient de publier un rapport accablant intitulé « Les contributions de Meta aux violations des droits humains dans le nord de l'Éthiopie ». L'ONG montre que la plateforme porte une part de responsabilité en cause ces algorithmes qui amplifient les messages incendiaires. Et lors de cette guerre qui a duré 3 ans, Facebook a été une caisse de résonance. La diffusion massive de ces messages a donné lieu à des violences, à des discriminations à l'égard de la communauté tigréenne, jetant de l'huile sur le feu dans des situations déjà tumultueuses et marquées par d'importantes tensions ethniques. Après avoir contribué au nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar, Meta récidive en Éthiopie. Pourtant, un document interne du groupe datant de 2020 indiquait que les stratégies d'atténuation actuelles ne sont pas suffisantes pour empêcher la diffusion de contenus préjudiciables. La multinationale américaine n'a pas bougé d'un clic. Alors depuis, il y a des actions en justice par plusieurs personnes, dont le fils de ce professeur de chimie qui a été assassiné, des faits qui sont recoupés dans le rapport d'Amnesty International. Voilà.
Merci.
Pour plus d'infos, allez voir sur la dernière chronique, parce que j'ai un peu résumé.
Oui, t'as un peu résumé, oui, tout à fait. Et puis, donc, on rappelle, effectivement, ces pétitions 10 jours pour signer, dont un autre cas, effectivement, sur un réfugié Rohingya, je ne sais pas comment on dit Rohingya, qui aussi attaque Facebook et Meta pour aussi des manipulations de ce type-là. Donc, on passe la seconde pause musicale, on se retrouve juste après.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On a été surpris par la fin de la chanson. Voilà. De retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est la chanson qu'on vient d'écouter. Alors, je vais reprendre mes notes parce que c'est un Iranien. Donc, il s'appelle Shervin Hajipour et la chanson s'appelle Baraye. On vous l'avait déjà passée, mais c'est une chanson en hommage à la lutte des femmes en Iran, Femmes, Vie, Liberté. Et c'est aussi en pensant à la remise du prix Nobel, le prix Nobel à, comment s'appelle-t-elle, à Narges Mohammadi. Narges. Qui a donc été nommée bénéficiaire du prix Nobel là, pour cette année, et qui a été remis non pas à elle, parce qu'elle est en prison actuellement en Iran, mais à ses enfants et à son mari, dimanche dernier, à Stockholm. Voilà. Donc c'était un petit hommage aussi à Narges. Et maintenant, c'est Clairlys qui a des informations à vous donner.
Eh ben ouais, cette affaire-là, tabernacle, j'avais envie de dire depuis tout à l'heure. tabernacle. Je vais vous parler de l'expulsion illégale d'un étranger. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui viole le droit européen. Tout à l'heure, on vous parlait de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le fait que certains pays européens ne respectaient pas toujours la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les droits humains. Eh bien, en voilà un bel exemple. Donc, le mardi 14 novembre 2023, une personne protégée par la Cour européenne des droits de l'homme a été expulsée vers son pays de nationalité. Cette association de défense de droits humains dénonce cette expulsion illégale et la violation manifeste de la Convention européenne des droits de l'homme. Le ministre de l'Intérieur, que j'ai déjà nommé tout à l'heure, l'avait annoncé, la Cour européenne des droits de l'homme ne sera pas un obstacle à sa politique migratoire fondée notamment sur l'amalgame entre étrangers et délinquance. Donc le mardi 14 novembre, il a mis à exécution ses paroles en expulsant en parfaite connaissance de cause, une personne dont la Cour européenne des droits de l'homme avait interdit l'éloignement. En mars, la Cour de Strasbourg prononçait en urgence une mesure provisoire pour empêcher l'expulsion de M. X, sa vie étant en danger dans son pays d'origine, son pays de nationalité. Malgré le renouvellement de cette protection suite à une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui reconnaît également un risque de torture, la préfecture le plaçait quelques mois plus tard délibérément en centre de rétention administrative avec l'objectif assumé de procéder à son expulsion. Alors qu'une audience se tenait le lendemain, cette personne a été emmenée à l'aéroport et expulsée en toute illégalité malgré les nombreuses alertes et saisines de son avocate. Cette expulsion est dramatique puisqu'elle vient frontalement violer la Convention européenne des droits de l'homme. Rappelons que cette convention, signée par 46 États au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vise à protéger les droits humains les plus fondamentaux, dont le droit à la vie et l'interdiction de la torture. Cette situation vient donc confirmer que la politique d'expulsion prônée par le ministère de l'Intérieur français se détache aujourd'hui du respect des droits humains. Cette option dangereuse qui porte atteinte à l'état de droit se nourrit d'arguments relayés ces temps-ci dans le débat politique et médiatique prétextant que la Convention européenne des droits de l'homme et sa Cour seraient arriérées et inadaptées à notre temps. Une affirmation erronée, la Cour s'étant toujours adaptée à son époque et à ses enjeux, faisant évoluer les principes fondamentaux de la Convention au regard des défis actuels. Mais elle n'est pas moins catégorique quant au caractère absolu du respect de la Convention et notamment des articles 2 et 3 qui protègent le droit à la vie et prohibent la torture contre les traitements inhumains et dégradants. Cette expulsion est un précédent dangereux car elle est une atteinte flagrante et frontale à l'état de droit. La France s'est engagée auprès du Conseil de l'Europe à un respect méticuleux des décisions de la Cour. Force est de constater aujourd'hui que cet engagement s'efface devant la volonté de mener une politique migratoire axée sur la fermeté aux dépens des droits humains. Les associations signataires appellent à un arrêt immédiat des procédures d'expulsion violant la Convention européenne des droits de l'homme et au respect strict du droit international. Donc ces fameuses associations signataires, ce sont les Avocats pour la défense des droits des étrangers, Amnesty International France, le GISTI, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature. Voilà. Et ça, ça me rappelle quand même aussi que le 20 juin 2023, qui était la journée mondiale des réfugiés, M. Darmanin a envoyé la police expulser 450 mineurs non accompagnés qui campaient dans les jardins du Palais Royal. C'était quand même une triste façon de fêter la journée mondiale des réfugiés. À quoi peut-on s'attendre le 18 décembre, journée internationale des migrants ?
Et donc, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Claire-Lise, cette expulsion illégale prononcée par le ministère de l'Intérieur, c'est aussi une bien triste façon, c'est même déplorable, une bien triste façon de fêter l'anniversaire, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'on s'assoit sur les droits humains fondamentaux, et c'est la France qui le fait à travers son ministre de l'Intérieur.
On peut appeler à manifester.
Oui, et le 18,
oui,
voilà,
on va appeler à manifester. Vas-y, Claire-Lise.
Eh bien, justement, donc les associations du collectif Solidarité Migrants de l'Eure, dont Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le CFEDASTI d'Evreux, le RESF 27, la CIMAD de Gaillon, l'ADEME de Vernon, l'ANDA de Pont-Audemer, Partenariat Africa et le Secours catholique, donc toutes les associations du collectif Solidarité Migrants de l'Eure, appellent à une manifestation devant la préfecture le 18 décembre à 18h30. Donc c'est la journée mondiale des migrants. Et donc c'est une manifestation pour un accueil respectant les droits et la dignité des personnes immigrées dans un esprit de fraternité, dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contre le projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui a fait chou blanc hier soir, mais qui va revenir d'une façon ou d'une autre, et contre le durcissement actuel d'une loi déjà très restrictive. Voilà. Venez nombreux le 18 décembre, 18h30, devant la préfecture, c'est important.
Oui, tout à fait. Et pour faire le lien avec ce qui avait été dit au début dans l'émission, encore une fois, pour cet anniversaire de la Déclaration universelle, où il est bien dit que un texte aussi beau n'a de sens que si les gens s'en emparent et le font vivre, il faut pas laisser passer, effectivement, cette tendance qu'ont maintenant les autorités françaises, quelles qu'elles soient, à s'asseoir sur un certain nombre de droits fondamentaux.
Il faut montrer notre force.
C'est pas...
Tabernacle.
C'est pas en Russie, c'est pas, je sais pas, c'est pas en Chine, c'est en France, et c'est en France qu'on remet en cause les droits fondamentaux. Donc, il faut être extrêmement vigilant et il ne faut pas... Oui, je sais. Il ne faut pas...
Didier, on lui montre la pendule
au salon qui dit oui, qui dit non.
On va arriver au terme de l'émission et on va saluer nos amis du laboratoire qui viennent d'arriver.
Local, là.
À qui on laissera l'antenne juste après. Donc, information locale, on est présent ce samedi. C'est le samedi 16, toute la journée. Au marché de Noël gourmand qu'organise la Brasserie Sport à Gravigny. Je pense que vous la connaissez toutes, hein, c'est rue de la Mairie. Et on y est pour faire signer toujours pour les pétitions et pour les actions, pour les 10 jours pour signer, comme on était présent au théâtre et chez Biocop la semaine dernière. On remercie tout le monde de leur accueil déjà passé. Donc voilà, on sera avec nos amis de la Brasserie Sport samedi prochain, samedi 16, toute la journée.
Une belle journée aussi.
N'hésitez pas à venir nous voir et à signer pour les pétitions.
Et venir discuter avec nous aussi.
Voilà. Et si vous êtes pris samedi, on vous rappelle que les pétitions sont à signer sur le site d'Amnesty, amnesty.fr.
Ouais, mais pétition papier, c'est encore mieux. C'est ce que les gens nous ont dit à Biocop. Signer aussi avec... Voilà. Parce qu'Internet, c'est très, très facile. C'est pas le même...
C'est pas la même chose, mais enfin bon.
Faut faire les deux.
Et donc on se retrouve, nous on sera on sera à l'antenne le prochain mardi pour notre émission dans 15 jours. Donc c'est le mardi 26 décembre, lendemain de Noël, mais on sera présent pour notre dernière émission de l'année en attendant de se retrouver bien sûr sur l'antenne de Principe Actif au mois de janvier.
Alors qu'est-ce qu'on va dire aux auditeurs de Principe Actif, ça fait drôle, mais on va quand même leur dire des bonnes fêtes de Noël.
C'est vrai, on va leur dire ça.
On va leur dire le 16 quand ils vont venir nous voir.
Voilà, pour les autres.
C'est ça, on leur dira le 16.
Puisqu'on va se retrouver.
Et le 18 à la manif.
Voilà.
C'est ça. Mais bon, pour tous ceux qui ne pourront pas venir, on aura quand même une petite pensée pour eux. Mais j'insiste lourdement sur le fait d'être très vigilant sur les atteintes aux droits mentaux qui sont même commis par les autorités françaises. Parce que
faut dire qu'on n'est pas d'accord.
Parce que
dire
ça vraiment.
Haut et fort, parce qu'il y en a d'autres qui le disent haut et fort et pas ce qu'on a envie d'entendre.
Et voilà. Parce que pour paraphraser Clarlise, qui est devant moi, effectivement, ce genre de choses des autorités françaises et de M. Darmanin, ça me fout les miquettes.
Voilà. Tabernacle. Je l'aurais dit trois fois, dis donc.
Yes. Bonne soirée.
Bonne soirée,
à, tous.
À très bientôt. Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.